le silence extérieur, bon, bien sûr, avec l'orage, c'est un peu. Surtout le silence intérieur, ne vous laissez pas prendre par telle ou telle pensée. Surtout les événements que nous avons vécus, bien sûr, ça tourne dans nos têtes, alors évitez que cela tourne dans vos têtes et vous distrait de la retraite de ce pourquoi vous êtes venu ici. Oh, il est très difficile de faire abstraction de ce genre de choses. Alors mettez ces événements en Dieu, voyez ça en Dieu, un peu comme un appel à la sainteté, un peu la honte de notre médiocrité. C'est un peu ça qu'on doit se dire. On est un peu secoué, donc on a un peu honte de notre médiocrité, de nos péchés. Et c'est une invitation à regarder Jésus-Christ qui nous appelle à la sainteté. Donc voyez ces événements en Dieu. Comme ça, ils ne vous distrairont pas, vous les verrez dans ce que le bon Dieu peut vous donner à travers eux. Donc, vous avez vu Dieu qui est le but de notre vie, Dieu qui nous aime, qui nous appelle à lui, et la réponse de l'homme dans le péché, sur le malheur du péché. Et c'est Jésus-Christ qui vient réparer nos péchés. Donc, nous allons porter notre regard sur notre Seigneur Jésus-Christ, cause de notre salut, mais j'insisterai particulièrement sur Jésus, modèle des vertus. Donc, comment la connaissance de la vie de Jésus-Christ peut nous stimuler beaucoup à la pratique de la vertu, donc à la sainteté. Alors, si vous voulez, le plan de cette instruction. Tout d'abord, Jésus-Christ, Dieu le Fils fait homme, donc le mystère d'incarnation. Ensuite, Jésus-Christ, modèle de vie chrétienne. J'expliquerai ce que je veux dire par là. Et ensuite, Jésus, modèle de vertu. Et c'est surtout cette partie-là qui est importante. Donc Jésus-Christ, Dieu le Fils, fait homme. En Jésus-Christ, notre Seigneur, vous avez deux natures, nature divine et nature humaine. Jésus est Dieu parfait, Dieu unique avec le Père et le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis Dieu le Fils. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils, fait homme, mais c'est Dieu le Fils. Et c'est en ce sens que notre Seigneur parle dans l'Évangile lorsqu'il dit « Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Une seule chose divine, si je peux parler ainsi, un seul être divin. » Et en devenant homme, Dieu le Fils ne cesse pas d'être Dieu. C'est ça le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Nous disons dans le Credo qu'il est consubstantiel au Père, donc une même substance, un même être, avec le Père et le Saint-Esprit, l'être divin. Le mystère de la Sainte Trinité, donc. Dieu parfait, mais il est aussi homme parfait, semblable à nous en toutes choses, sauf le péché, bien sûr, un corps et une âme comme les nôtres. Et donc, en tant qu'homme, il est créé par Dieu. Il naît dans le temps, il a faim, il a soif, il a souffert, il est mort. Et c'est en ce sens que dans l'Évangile, notre Seigneur dit: le Père est plus grand que moi, en tant qu'homme, parce qu'en tant que Dieu, il est égal. Mais en tant qu'homme, ben, le Père est plus grand que lui. Donc Dieu parfait et homme parfait. Et ces deux natures sont unies entre elles. Et ces deux natures sont très éloignées l'une de l'autre. C'est toute l'infinité qu'il y a entre le Créateur et la créature. Alors ça, c'est le mystère de cette union. Et cette union se fait dans la personne du Verbe, c'est-à-dire dans la seconde personne de la Sainte Trinité. Alors, voyez, si nous comparons à nous, nous avons un âme et un corps qui sont unis et qui forment une seule personne humaine. En Jésus-Christ, il y a bien le corps et l'âme qui forment l'homme, mais il n'y a pas de personne humaine. Il n'y a pas de jeu humain. Il n'y a qu'une personne divine. La nature humaine de Jésus-Christ est parfaite, semblable à la nôtre, mais elle reçoit son existence de la personne du Verbe, de la seconde personne de la Sainte Trinité. En Jésus-Christ, vous avez une seule personne, la seconde de la Sainte Trinité. Il y a un seul dit « je », c'est le Fils, Dieu le Fils. Il y a un seul acteur, un seul à qui toutes les actions sont attribuées, Dieu le Fils. C'est le mystère de l'union hypostatique, l'union de la nature humaine dans la personne du Verbe. Union hypostatique, c'est union personnelle. Hypostatique, c'est la personne. Donc c'est l'union dans la personne. Il y a une seule personne, un seul être qui assemble, enfin qui est uni, qui assume, qui a les deux natures. Alors c'est le mystère de l'incarnation. Mais c'est l'union dans la personne. Il y a une seule personne. Il y a l'être divin, et il y a la nature humaine, mais la nature humaine est assumée, elle est élevée. Hein, ce n'est pas Dieu qui est abaissé. C'est la nature humaine qui est élevée, qui est assumée, élevée jusqu'à être nature humaine d'une personne divine. Donc ce n'est plus une personne humaine. Il y a une élévation vers en haut. Alors, en voyant un petit peu les conséquences de cette union personnelle ou hypostatique, nous allons voir un petit mieux comprendre. Alors, ces deux natures, divine et humaine, gardent leurs opérations spécifiques. Entre elles, il n'y a ni mélange, ni confusion. Chacune conserve son activité propre. Ce matin, donc là, nous voyons un peu sur la question de l'humanité. Toute l'activité humaine provient d'une personne qui n'est pas humaine, mais divine. Donc ce sont les activités, les opérations d'une personne divine. Quand Jésus-Christ mange du pain, c'est Dieu le Fils qui mange du pain. C'est Dieu qui mange du pain. Quand il dit « j'ai faim », c'est la seconde personne de la Sainte Trinité qui dit « j'ai faim ». Il n'y a qu'un « je ». Il n'y a qu'une seule personne à laquelle sont attribuées toutes les actions. Donc quand il dit « je », c'est la seconde personne de la Sainte Trinité qui dit « je ». Et quand il dit « j'ai faim », c'est Dieu le Fils qui dit « j'ai faim ». La Samaritaine qui voit Jésus assis sur la margelle du puits, et notre Seigneur, l'Évangile dit, notre Seigneur est fatigué. C'est Dieu qui est fatigué. Dieu le Fils qui est fatigué. Les actions humaines sont celles d'une personne divine. Et de même, la mère de Jésus-Christ est la mère de Dieu, parce que c'est la mère d'une personne qui est Dieu. Quand vous avez un enfant, vous ne dites pas « je suis mère d'un corps et d'une âme ». Je suis mère d'une personne. Vous mettez au monde une personne humaine. Bien sûr, mais c'est une personne. Quand la Sainte Vierge met au monde Jésus-Christ, elle met au monde une personne qui est Dieu, mais qui est revêtue, qui a assumé la nature humaine. Elle met au monde une personne divine selon la nature humaine. Mais c'est une personne divine. C'est pourquoi on l'appelle mère de Dieu. Et c'est deux fois. Si on cesse d'appeler la Sainte Vierge mère de Dieu, on cesse de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Le Concile d'Éphèse en 431. Donc par l'union de la nature humaine à la personne du Verbe, une personne divine, toutes les actions humaines reçoivent une perfection très élevée. Elles reçoivent, vous voyez, les actions de la nature humaine considérées en elles-mêmes, elles sont finies, elles sont limitées, comme les nôtres. Quand Jésus dit « je suis fatigué », c'est la fatigue, c'est une limite. Mais ces actions sont celles d'une personne divine, elles reçoivent par là une perfection infinie, divine. Donc, l'action humaine en elle-même, l'action est humaine en elle-même, mais elle est divine dans sa racine, dans son principe, qui est la personne, la seconde personne de la Sainte Trinité. Donc vous avez une action humaine toute simple, je suis fatigué, qui est limitée, qui est humaine, finie, mais qui devient infinie, de valeur infinie, parce qu'elle provient d'une personne divine. Alors évidemment, seul Dieu peut comprendre la grandeur, la valeur infinie des actions humaines de son Fils. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre ça. Nous, nous savons que c'est comme ça, parce que ça vient d'une personne qui est Dieu, et que la personne divine donne aux actions humaines une valeur infinie, parce que c'est la personne qui est à l'origine de toutes les actions. Mais Dieu seul peut comprendre ça. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, dit notre Seigneur dans saint Matthieu. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et le Père, en regardant l'humanité de Jésus-Christ, je dis bien en regardant l'humanité de Jésus-Christ, il voit son Fils. Et c'est pourquoi il émet toutes ses complaisances, c'est toute l'apparition, la transfiguration au mont Tabor, où Dieu le Père parle aux apôtres et il dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils voient ? Voici mon Fils en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Eh bien, cela est vrai dans les plus éclatants mystères de Jésus-Christ, comme dans les plus profondes humiliations, c'est toujours Dieu le Fils qui agit. Donc c'est Dieu le Fils qui souffre et qui meurt sur la croix, dans sa nature humaine, bien sûr. Donc les moindres actions de Jésus-Christ dans son humanité, les plus petits mouvements de son cœur sacré plaisent infiniment à Dieu parce que c'est les actions du Fils de la seconde personne de la Sainte Trinité. Donc les moindres mouvements du cœur de Jésus, de son cœur de chair, plaisent à Dieu infiniment parce que cela vient d'une personne qui est Dieu. C'est le mystère de notre Seigneur. Et puis quand nous allons communier, eh bien, il faut penser à cela. Car nous recevons le corps de Jésus-Christ, mais c'est le corps de Dieu, du Fils de Dieu. C'est Dieu qui est présent. Alors, l'application à notre salut est toute simple. Jésus, par ses souffrances et sa mort, est cause de notre salut. Bon, le péché déplaît à Dieu. Alors, pour réparer, il faut offrir à Dieu quelque chose qui lui plaise autant ou plus que le péché ne lui a déplu. Alors, comme le péché est une offense qui a un caractère quasi infini parce qu'il est fait contre Dieu, il faut offrir à Dieu quelque chose proportionné, donc d'une valeur infinie. Vous connaissez l'exemple, si je donne une claque à mon frère, ça ne va pas bien loin. Si je la donne aux parents, ça commence à être plus grave. Si je la donne au curé, la gravité augmente, c'est toujours la même claque. Si je la donne, à un roi, ça devient grave. Et si je la donne au pape, c'est la plus grande gravité terrestre. La gravité du même geste augmente à raison de la dignité de la personne qui est offensée. Quand c'est Dieu, si je donne la claque au bon Dieu, comme Dieu est d'une dignité infinie, ça prend des proportions infinies. Pour réparer, il faut offrir quelque chose d'équivalent, donc d'une valeur infinie. Nous ne pouvons pas. Parce que nous, êtres humains, toutes nos actions humaines sont limitées. Alors, le bon Dieu, dans sa miséricorde, a voulu envoyer son Fils, qui en tant qu'homme peut offrir quelque chose au nom des hommes, et en tant que Dieu, je vous l'ai dit tout à l'heure, donne à ses actions humaines une valeur infinie. Donc, l'amour et l'obéissance que Jésus met dans son sacrifice, amour et obéissance d'un être, de sa nature humaine, mais qui prennent une valeur infinie parce qu'elles proviennent d'une personne divine. Donc cet amour et cette obéissance dans son sacrifice et sa mort compensent surabondamment nos désobéissances et nos manques d'amour. Vous voyez, c'est parce que la personne divine communique aux actions humaines une valeur infinie. Alors, la moindre souffrance offerte par obéissance et amour du cœur humain de Jésus prennent une valeur infinie, donc compense surabondamment le péché, l'offense faite à Dieu. C'est pourquoi, c'est ça la messe. La messe, c'est offrir le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire son obéissance et son amour, obéissance et amour de la nature humaine de Jésus, mais qui, étant les actions d'une personne divine, plaisent à Dieu infiniment. Et comme c'est offert en notre nom, ben nous, à la messe, nous offrons à Dieu quelque chose qui a une valeur infinie. C'est ça la messe. Du Fils de Dieu fait homme, cet amour et cette obéissance dans son humanité ont une valeur infinie parce qu'ils viennent d'une personne divine et ils sont offerts au nom des hommes. Et comme c'est d'une valeur infinie, ça plaît à Dieu plus que le péché ne lui a déplu. Donc ça compense et ça efface. Enfin, en résumé, bien sûr. Mais c'est ça le centre du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous voulons offrir à Dieu quelque chose qui lui plaise, bon, il y a nous, oui, nos actions, même les meilleures, elles restent limitées. Mais si nous nous unissons à Jésus-Christ, et c'est la petite goutte d'eau dans le vin, à l'offertoire, si nous offrons à Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, alors nous offrons à Dieu quelque chose de valeur infinie. C'est l'offertoire. L'offertoire, c'est le sacrifice de toute l'Église, de tous les baptisés unis à Jésus-Christ, offrant à Dieu le sacrifice de Jésus-Christ et les leurs avec ceux de Jésus-Christ. Et comme c'est celui de Jésus-Christ et qu'il a une valeur infinie parce que c'est une personne divine qui l'offre, qui offre les souffrances, l'obéissance, l'amour de la nature humaine, alors ça a une valeur infinie qui répare surabondamment nos péchés. Vous avez la nature humaine qui est finie, limitée, mais ce sont les actions humaines sont les actions d'une personne divine, et parce que ça vient d'une personne divine, ça a une valeur infiniment agréable à Dieu. Alors, quelques mots sur l'imitation de Jésus-Christ dans sa filiation divine. Donc, c'est comment modèle Jésus, modèle de vie chrétienne. Alors, je vais passer un petit peu rapidement, parce que je voudrais insister surtout sur les vertus. Donc, je reviens donc sur ce que j'ai dit. Donc là, c'est la deuxième partie du plan. Jésus, modèle de vie chrétienne. Alors, j'explique, cela veut dire imiter Jésus-Christ dans sa filiation divine, c'est-à-dire dans ce mystère de l'union de la nature humaine à la nature divine en la personne du Verbe. C'est possible, donc je reviens sur ce que nous avons dit, toutes les actions humaines de Jésus-Christ en tant qu'humaines sont finies et limitées, mais parce qu'elles proviennent d'une personne divine, comme de leurs racines, elles acquièrent une perfection infinie, humaine en elle-même, mais divine par la personne dont elles proviennent. Donc humaine en elle-même, mais divine par la personne dont elles proviennent. Alors, est-ce que nous pouvons imiter cela? Bien, d'une manière imparfaite, oui. par la grâce sanctifiante. Et c'est le mystère, la grandeur de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante nous rend fils de Dieu par adoption. Alors bien sûr, nous sommes et nous demeurons des créatures, nous demeurons des personnes humaines. Nous ne pourrons jamais imiter Jésus-Christ au point de devenir personne divine. Non, ça, c'est pas possible. Nous restons créatures. Bon. Cependant, la grâce sanctifiante nous transforme intérieurement et dans nos actions. Elle nous divinise. C'est Saint-Pierre, hein, puis c'est répété dans l'offertoire de la messe. Nous sommes participants de la nature divine. Alors, nous sommes et nous restons des créatures, c'est entendu, mais nous sommes divins par participation, par adoption. Alors, il faut imiter Jésus-Christ en donnant à toutes nos actions une valeur divine par la grâce sanctifiante qui nous unit à Dieu. Donc, qu'est-ce qui donne valeur aux actions humaines de Jésus-Christ? C'est sa personne divine. Pour nous, ça va être la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante doit être la racine de toutes nos actions. Ce qui fait la valeur des actions humaines de Jésus-Christ, c'est que sa racine, c'est une personne divine. Pour nous, ça ne peut pas être une personne divine, bien sûr. Ben, c'est la grâce sanctifiante. Il faut que la grâce et la charité soient la racine de toutes nos actions. Il faut donc que tout ce qui est trop humain en nous disparaisse. Le moi, le gros moi là qui prend la place. Moi, je fais ceci. Moi, je décide ceci. Ben, ça reste humain. C'est la racine humaine de vos actions humaines. Et bien alors, vos actions humaines gardent une valeur purement humaine parce qu'elles viennent du moi humain. Il faut que ce moi humain s'efface pour laisser à la grâce sanctifiante l'initiative de toutes les actions que nous faisons. Il faut donc se dépouiller de nous-mêmes. Il nous faut penser et agir selon les désirs de notre Père du ciel. Donc, il ne faut pas avoir cette attitude intérieure de propriétaire. C'est mon activité. Eh bien, si c'est mon activité, si elle reste mienne totalement, elle demeure purement humaine. Elle ne s'élève pas au divin. Il faut donc que notre moi disparaisse pour laisser à la grâce de Dieu être le principe de nos actions. De même que en Jésus-Christ, c'est la personne divine qui est au principe des actions humaines. Mais il faut qu'en nous, la grâce soit au principe de toutes nos actions humaines. De sorte que tout soit divinisé par la grâce. Ah, ça demande le renoncement, bien sûr. Pratiquer le renoncement dont parle notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, hein, celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Et c'est en ce sens que saint Paul dit « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est-à-dire que celui qui est à l'origine de mes actions, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ par la grâce. Donc il faut se dépouiller de notre moi pour se laisser agir divinement. C'est l'évangile, l'épître de dimanche dernier, donc d'hier. Ceux-là sont fils de Dieu qui sont mus par le Saint-Esprit. Le texte, le latin, est très fort. Ceux-là sont fils de Dieu qui sont mus. C'est un passif. Qui sont mus, dirigés, conduits par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu, par la grâce sanctifiante, soit l'origine de nos actions. Et non pas notre moi tout seul. Sinon, nous restons tout seuls et ça reste humain et ça n'a pas grande portée. Il faut donc agir sous la mouvance du Saint-Esprit, sous l'action du Saint-Esprit. C'est cette docilité à la grâce qui est nécessaire. Vous trouverez un passage sur ce sujet là dont je viens de parler dans le Christ vie de l'âme. Vers les pages 50-52, vous pourrez consulter, puisque les livres sont ici. dans le Christ vie de l'âme, dans les pages 50-52. Donc maintenant, Jésus, modèle des vertus. Alors, nous allons regarder les vertus théologales, principalement, et une vertu morale, la vertu de religion. Alors, les vertus théologales. La première, c'est la foi. Jésus avait-il la foi? Mais non, notre Seigneur ne pouvait pas avoir la foi. Pour la raison toute simple, c'est qu'il voyait Dieu. Dans son âme, je précise. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est croire, c'est-à-dire tenir pour vrai ce qu'on ne peut pas connaître par soi-même, mais qu'un autre nous enseigne. Je l'expliquerai en parlant des vertus théologales, j'expliquerai davantage, mais je crois ce que je ne peux pas connaître par moi-même. Un autre me dit, m'enseigne, ben je lui fais confiance, je crois ce qu'il me dit. Mais moi, je ne vois pas. L'histoire ou des reportages sur des événements historiques que nous n'avons pas vus. Alors, je ne parle pas de Jésus en tant que Dieu. Jésus en tant que Dieu, ben, il a la connaissance que Dieu a de toutes choses. Mais je parle de Jésus en tant qu'homme, dans son âme humaine. Donc, dans son âme humaine, eh bien, il a la vision béatifique. Monseigneur Lefebvre en parlait là tout à l'heure à midi. Dans son âme humaine, Jésus-Christ voit Dieu, voit l'essence divine. Ce que les saints qui sont au ciel voient, la vision béatifique, la vision de Dieu qui rend bienheureux, ben ça, notre Seigneur l'avait dans son âme dès le premier instant de son incarnation. Donc, dès le premier instant de son incarnation, son âme voyait Dieu. Et parce qu'elle voyait Dieu, elle était bienheureuse. C'est la vision béatifique. Extraordinaire. L'âme de Jésus-Christ voyait Dieu. Et la voyait beaucoup mieux que tous les saints qui sont au paradis, bien sûr. Parce qu'il est beaucoup plus parfait. Donc il voyait le mystère de Dieu, le mystère de la Sainte Trinité. Il voyait son propre mystère de l'incarnation. Son âme voyait ce mystère de l'incarnation que nous verrons au ciel, bien sûr. Mais il le voyait déjà. Bien sûr, connaissance dans une âme humaine, donc avec les limites de l'humanité, mais beaucoup plus parfaite que ce que les saints peuvent voir au ciel. Notre Seigneur, dans l'évangile de Saint Jean, dit « Personne n'a vu le Père, si ce n'est celui qui est de Dieu, car celui-là a vu le Père. » Et il y a un endroit où notre Seigneur dit « Mais moi, ce que j'ai vu, je vous le dis, je vous l'enseigne. Ayez confiance en moi, je vois ce que je vous dis. » Dans cette vision béatifique, eh bien, Dieu lui fait connaître toutes choses dans son âme humaine. Il connaît le passé, le présent, l'avenir. Alors ça, c'est la vision béatifique. Dans son âme, notre Seigneur a deux autres sciences, deux autres connaissances. Il a la science infuse et la science acquise. Alors la science infuse, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est connaître tout ce que les hommes peuvent connaître en apprenant, le connaître sans apprendre. Science infuse. J'ai pas besoin d'apprendre, ça vient tout seul. C'est tout à fait commode, bien sûr. Nous aimerions bien avoir ça. Ça faciliterait beaucoup les labeurs constants auxquels nous sommes obligés de nous soumettre pour apprendre. Mais ça, c'est Jésus-Christ, c'est sa dignité de fils de Dieu. Donc tout ce que l'homme peut connaître par son intelligence, ben, notre Seigneur l'a. Et tout ce que l'homme peut connaître par révélation, notre Seigneur le connaît aussi, connaissance surnaturelle. Donc il a par exemple le don de prophétie, il peut connaître les secrets des cœurs, connaître l'avenir, Et cela, ce sont des exemples fréquents dans l'Évangile. On dit dans l'Évangile, il savait ce qu'il y a dans l'homme, dans le cœur de l'homme. Il ne se confie pas à l'homme. Les gens l'acclament, très bien, et notre Seigneur dit, je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, et il ne s'y fie pas. Donc cette science infuse, tant naturelle que surnaturelle, lui permet de connaître beaucoup de choses. Donc ce qui explique qu'ils connaissent l'avenir, qu'ils connaissent les secrets des cœurs. Et puis vous avez la science acquise, ben, ça nous connaissons bien, c'est celle que nous apprenons par nos efforts, sur les bancs de l'école ou ailleurs. C'est aussi cette science que nous acquérons par l'expérience et la réflexion sur cette expérience. La vie nous fait faire des expériences et en réfléchissant sur ces expériences, eh bien, nous acquérons une certaine connaissance de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et c'est en ce sens qu'on peut dire qu'il est dit dans l'évangile de Saint-Luc, Jésus croissait, donc augmentait, en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En sagesse devant Dieu et les hommes, il augmentait, c'est cette expérience qu'il acquérait, comme nous. Il a une nature semblable à la nôtre. Et ce qui est très consolant, c'est que notre Seigneur a eu l'expérience de la souffrance. On peut connaître la souffrance de deux manières, simplement par son intelligence. Bon, oui, très bien, je vois ce que c'est souffrir. Puis il y a la souffrance parce que nous-mêmes, on est passé par là. Il est évident que c'est la deuxième manière qui, pour nous, nous fait savoir ce que c'est souffrir. Eh bien, notre Seigneur a eu cette science de la souffrance par expérience. Saint Paul dit, il a appris tout fils de Dieu qu'il est. Donc, tout fils de Dieu qu'il est, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'expérience de la souffrance lui a appris l'obéissance tout fils de Dieu qu'il est. Et Saint Paul dit encore, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, puisqu'il a été comme nous, tenté et éprouvé en toutes choses, sans commettre le péché. Alors, dans toutes nos souffrances, nos épreuves et tout, nous pouvons nous dire, ben, Jésus sait ce que c'est, parce qu'il est passé par là. Il en a eu l'expérience. Il a eu cette connaissance de la souffrance. Vous voyez ? Il est passé par là. Alors, pas exactement les mêmes, bien sûr, mais il est passé par l'épreuve et la souffrance. Il en a eu l'expérience. Donc, il peut me consoler, il peut compatir. Et mieux que tout autre, puisqu'il est à cause de sa perfection. Donc, Jésus n'a pas la foi, mais la vision béatifique. Il a aussi la science infuse et la science acquise par expérience. S'il n'a pas la foi, il a cependant quelque chose qui est commun avec nous dans notre foi, à savoir la soumission de l'intelligence. Ce fait que la foi, c'est recevoir la vérité, et pour recevoir la vérité, ben, faut soumettre. Bien sûr, faut la recevoir, faut accepter la vérité. Eh bien, notre Seigneur, s'il n'a pas la foi, il a cependant la soumission de son intelligence humaine à Dieu. Alors comment ? Bien ça aussi c'est très consolant. Notre Seigneur n'invente pas sa doctrine. Elle ne vient pas de lui. Et c'est très important pour aujourd'hui. Tout ce qu'il enseigne, il l'a reçu. Ça ne vient pas de lui. Et il le dit. Dans Saint Jean, c'est une affirmation qui revient presque tous les chapitres, des chapitres 3 à 8. Vous pouvez lire, faites expérience, vous lisez les chapitres 3 à 8 de Saint Jean, en regardant cet aspect particulier, et vous verrez que notre Seigneur répète plusieurs fois de suite, « Mais ce que je vous dis, je l'ai reçu. » Voici par exemple, chapitre 7, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Celui qui m'a envoyé est véridique. Alors ça, c'est au chapitre 8. Celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Donc, j'ai entendu, j'ai reçu, et je vous le transmets. Et ça ne vient pas de moi. Encore au chapitre 8, « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. » Je dis ce que j'ai vu. Mais je n'invente pas quelque chose. Nous voyons, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ est déjà une tradition. Alors, nous devons avoir la même humilité. L'humilité de l'intelligence qui n'invente pas les doctrines, mais qui la reçoit de Dieu et qui la transmet. C'est la tradition. Alors comprenez que c'est important. Mais c'est une humilité, hein, parce qu'il faut se soumettre à celui qui est la vérité, qui enseigne la vérité. Ensuite, pour la deuxième vertu théologale, l'espérance. Notre Seigneur a-t-il l'espérance? Là, c'est un petit peu plus difficile. Enfin, pas difficile, mais la réponse. A-t-il l'espérance? Il faut distinguer soit selon son âme, soit selon son corps. Le corps physique, qui était un corps qui pouvait souffrir. Et puis, il y a aussi, selon son corps mystique, c'est-à-dire l'Église. Alors, dans son âme, notre Seigneur n'a pas l'espérance. Parce que voir ce qu'on espère, ce n'est pas espérer. Puisqu'il voit Dieu et qu'il le possède, il a la vision béatifique, il possède Dieu déjà. Donc, il n'a plus besoin de l'espérer. Dans son âme. Son âme voit Dieu, possède Dieu, est unie à Dieu pour toujours, dans une joie ineffable. Ceci, dès les premiers instants de sa conception, eh bien, il ne peut pas le perdre. Donc il n'a pas d'espérance puisqu'il l'a déjà. On espère ce qu'on n'a pas encore. Mais ce qu'on a déjà, on n'espère plus. On s'en réjouit de le posséder. Donc ton Seigneur est dans la joie, dans son âme, est dans la joie de posséder Dieu. La joie, la jouissance de posséder Dieu, et cette joie ne l'a jamais quitté, même dans la passion, même dans les souffrances de l'agonie. L'âme de Jésus-Christ est dans la joie ineffable de posséder Dieu. Seulement, notre Seigneur a voulu que cette joie soit repoussée au sommet de l'âme, à la fine pointe de l'âme, comme dit saint François de Sales. Pourquoi il a voulu la repousser? Ben, il a voulu souffrir. Donc il n'a pas voulu être consolé par cette joie divine. Il l'a repoussé au sommet de l'âme, de manière à ce que son âme soit plongée dans la souffrance pour mieux expier nos péchés. Et par cette joie divine. Il n'aurait pu être consolé quand vous voyez les martyrs qui arrivent à se réjouir dans leur souffrance, et ça se voit extérieurement, c'est que Dieu les console dans leur martyre pour les aider. Notre Seigneur s'est refusé cette consolation, il a repoussé la joie divine au sommet de son âme, de sorte que toute son âme et son corps soient le plus possible plongés dans la souffrance. Ça, volontairement, par amour de Dieu, par amour pour nous. Alors, pour nous, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a perdu les consolations, enfin que nous n'avons plus les consolations dans la prière, cela ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné de nous. Ça veut dire simplement que la consolation, que la joie n'est plus ressentie. On peut avoir la joie au sommet de l'âme, mais cette joie ne se manifeste pas, qu'elle ne se voit pas, parce que nous sommes dans l'amertume, dans la peine, dans la souffrance. Alors, ben, c'est la désolation, c'est dur, c'est difficile, mais si notre âme est unie à Dieu par la grâce, ben, la joie de cette grâce, de cette charité est toujours présente, mais elle est cachée. Donc, il ne faut pas s'affoler si... Ben, parfois, nous sommes un peu dans la désolation, dans la peine. Cela ne veut pas dire que Dieu est parti. Cela veut dire simplement que sa présence ne se manifeste plus par des consolations sensibles. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est parti. Alors, ça, c'est dans l'âme de Jésus-Christ, dans son corps, notre Seigneur a une certaine espérance. La résurrection glorieuse, il prie pour être glorifié. Notre Seigneur dans sa prière sacerdotale le soir du jeudi saint, dit « Et maintenant, vous, Père, glorifiez-moi auprès de vous de la gloire que j'avais auprès de vous avant que le monde fût. Glorifiez-moi. » Il prie pour cette gloire, mais la gloire dans son corps, puisque son corps va souffrir, il n'est pas dans la gloire, et qu'après la résurrection, le corps de notre Seigneur est dans une gloire qui ne pourra jamais perdre, dans l'immortalité qui ne pourra jamais perdre, il y a un changement, et ce changement, il l'a espéré et il l'a demandé. Donc c'est dans son corps. Alors nous aussi, hein, nous pouvons demander la gloire pour notre corps. Ça fait partie de notre espérance. Dans son ascension aussi, il a demandé cette ascension, cette glorification devant Dieu, les anges et les hommes. Et puis le triomphe de l'Église. Notre Seigneur l'a demandé, l'a espéré. Il a versé son sang pour le triomphe de l'Église. Donc il l'a espéré, il sait que ça arrivera, il a prié pour ça. Et les prophéties l'ont annoncé. Vous avez dans Isaïe, il est dit, « En ce jour-là, le rejeton de Jessé, c'est-à-dire le Messie, Jésus-Christ, sera exposé comme un étendard devant les peuples. Les nations viendront lui offrir leurs prières. Toutes les nations viendront à lui. » C'est toute la liturgie de l'épiphanie. Toutes les nations qui viennent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'espérance du triomphe de l'Église. Mais le jour de l'Épiphanie, ce triomphe n'est pas encore commencé, hein, ni le jour de la croix. Ça viendra dans les siècles. Et encore, beaucoup de peuples iront et diront, « Venez, venez et montons à la montagne du Seigneur. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » Tous les peuples qui vont à Jésus-Christ. Et notre Seigneur a espéré cela, il a prié pour cela. Et ensuite, bien sûr, nous arrivons à la charité. Alors, c'est la partie, bien sûr, la plus importante, pourrions dire, la plus émouvante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la charité, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, son Père, et l'amour pour les hommes. Alors, tout d'abord, l'amour pour Dieu, son Père. Alors, en trois petits points, il a la soif de la gloire de son Père. Il désire ardemment que son Père soit glorifié. Et toujours dans sa prière sacerdotale qui, bien sûr, manifeste les désirs du cœur de Jésus, notre Seigneur dit, « Je vous ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que vous m'avez donnée à faire. Je vous ai glorifié sur la terre. J'ai achevé cette œuvre que vous m'avez donnée à faire, qui est de vous glorifier, de réparer la gloire que les hommes vous avaient enlevée. Mais j'ai achevé cette œuvre. Et cette œuvre, bien sûr, c'est son sacrifice qui répare la gloire. Et notre Seigneur est dans l'attente constante de cette heure où son œuvre sera réalisée. On l'avait dans l'évangile de Saint Jean, « Mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue. » Et dans Saint Luc, notre Seigneur montre les sentiments de son cœur, « Je dois être baptisé d'un baptême de sang. Et quelle angoisse, quel désir me presse jusqu'à ce qu'il soit accompli. » J'ai un désir plein d'angoisse jusqu'à ce que ça soit accompli. Et dans Saint-Luc toujours, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir ma passion. » Grand désir de manger cette Pâque, de faire cette œuvre que Dieu, son Père, lui a donnée. Vous voyez, cette soif de la gloire de son Père, de faire cette œuvre qui va glorifier son Père. C'est la devise de beaucoup d'ordres religieux. Hein. Même l'ordre bénédictin, on dit toujours, l'ordre jésuite, c'est tout pour la gloire de Dieu, mais l'ordre bénédictin aussi, hein. C'est tout pour la gloire de Dieu. Deuxième point de l'amour pour son Père, il fait toujours ce qui est agréable à son Père. Voyons, ce qui est important, c'est le toujours. Nous aussi, nous faisons ce qui est agréable à Dieu le Père. Mais nous ne pouvons pas dire toujours. Ça, c'est plus difficile. Donc c'est dans Saint Jean chapitre 8, Ce qui plaît à mon Père, je le fais toujours. Ce qui plaît à mon Père, je le fais toujours. Notre Seigneur est tout tendu vers Dieu son Père. Il est tout orienté vers son Père, tout à son Père, pour aimer son Père par-dessus tout dans son âme. Et donc, si vous voulez, Jésus-Christ est une seconde personne de la Sainte Trinité, eh bien, elle entraîne l'humanité dans l'amour infini qui unit les trois personnes divines. Alors, et on voit encore cet amour pour Dieu son Père, ce désir de faire ce qui lui est agréable, dans le soir, au soir du jeudi saint. Donc après la première partie du discours, après la scène, notre Seigneur sort du cénacle avec ses disciples, et c'est là où il s'approche d'une vigne et que notre Seigneur explique aux apôtres, « Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Il faut demeurer unis à moi, que la sève, donc la grâce, coule de vous en moi. » Et en sortant, notre Seigneur dit, et il sait qu'il va à sa passion, en sortant du cénacle, il sait qu'il va à sa passion, et il dit, « Mais afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis selon le commandement qu'il m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Afin que le monde sache que j'aime mon Père et que j'accomplis son commandement, partons d'ici et allons à ma passion. Donc, notre Seigneur fait toujours ce qui est agréable à son Père. Et cet amour, c'est le troisième point de l'amour de Dieu, cet amour se manifeste par l'accomplissement constant de la volonté de son Père, du début à la fin. L'accomplissement constant de la volonté de son Père. Le premier acte en entrant dans ce monde est un acte d'amour, d'obéissance. C'est saint Paul qui, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, et saint Paul cite un psaume, le psaume, je ne sais plus lequel, saint Paul donc cite ces paroles, « Ô Père, me voici, je viens pour faire votre volonté. Vous n'avez voulu ni sacrifice ni holocauste, alors j'ai dit, me voici, ô Dieu, pour faire votre volonté. » Voilà le premier acte humain de notre Seigneur, dès sa conception. Et cela, nous le retrouvons toute sa vie. N'oubliez pas les 30 ans de vie cachée et d'obéissance à la Sainte Vierge et à Saint Joseph. Et ensuite, dans sa vie publique, il dit bien aux apôtres, nous trouvons ça au chapitre 5 de saint Jean, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, cette humilité, cette soumission de la volonté humaine de notre Seigneur à la volonté divine de son Père. Je ne cherche pas ma volonté. Écho de ce psaume des Vêpres du dimanche. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous la gloire, mais à vous. Tout pour vous. Encore dans saint Jean, chapitre 5, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que fait le Père, le Fils aussi le fait comme lui. Et dans le chapitre 8, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme sur la croix, alors vous connaîtrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Rendez-vous compte, c'est une personne divine qui parle dans son humanité, et cette humanité d'une personne divine dit « Je ne fais rien de moi-même ». Alors nous, devant Dieu, notre volonté, où est-elle par rapport à Dieu ? Et notre Seigneur fait tellement cette volonté de son Père que cette volonté de son Père, c'est tout pour lui. Vous avez ça dans ce passage admirable de la rencontre avec la Samaritaine. Donc, notre Seigneur est fatigué, il s'assoit sur la margelle du puits, puis la Samaritaine arrive, veut puiser de l'eau, et notre Seigneur lui dit que cette eau est le symbole d'une autre eau, à savoir la grâce de Dieu qui coulera dans l'âme de ceux qui croiront. Quand notre Seigneur parle avec la Samaritaine, et puis donc lui inspire la foi, et la Samaritaine, toute contente, part vers les autres habitants de la ville pour leur annoncer que c'est le Messie. Et pendant ce temps-là, les apôtres reviennent. Eux, ils ont été faire les courses. Il faut bien penser aux choses de ce monde. Et de retour, ben, ils savent qu'il est fatigué. Ils ont marché avec lui, donc ils savent qu'il est épuisé. Alors ils disent, maître, mais il faut manger. Ils sont concrets, les apôtres, ils ont raison. Maître, il faut manger. Et l'évangile dit, mais il leur dit, j'ai à prendre une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les apôtres se disent les uns aux autres, mais alors il y a quelqu'un qui lui a donné à manger, là cette femme a dû lui donner à manger. Ils ne comprennent pas. Et notre Seigneur qui lit dans leur conscience leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Autrement dit, ce qu'il fait vivre, ce qui fait vivre son âme humaine, c'est de faire la volonté de son Père. Ce qui fait vivre, ben pour nous c'est la même chose. Pour que notre âme vive, ben faut qu'elle fasse la volonté de Dieu. C'est la grâce, c'est la charité. Et ne pas faire cette volonté de Dieu, c'est nous priver de la nourriture, et sans nourriture, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Ne pas faire la volonté de Dieu, ben c'est la mort. Qu'est-ce que c'est? C'est le péché. Tout simplement. Quand on cesse de faire la volonté de bon Dieu, notre âme est privée de sa nourriture, et sans nourriture, ben, on meurt. Ce qui fait vivre notre âme, ben, c'est comme pour Jésus-Christ, faire la volonté de Dieu. Et notre Seigneur a la même attitude, la même profonde de son âme jusqu'au calvaire, même quand cette volonté divine est redoutable et terrifiante pour la nature humaine. Au jardin des Oliviers, hein, notre Seigneur est terrifié. C'est l'angoisse terrible, la sueur de sang face à toutes les souffrances, face sans doute au péché qui offense Dieu. Ben, vous savez ce qu'il dit, non pas ma volonté, mais votre volonté. Et il répète 3 fois cette prière. Mais vous voyez que ça a été difficile, hein. Sa nature humaine n'avait pas du tout envie de faire la volonté du bon Dieu. Il ne faut pas nous étonner nous-mêmes si parfois notre nature humaine est un petit peu, pas révoltée, mais bouleversée, travaillée, tiraillée intérieurement, dans l'angoisse face à la volonté de Dieu à accomplir. Ben, notre Seigneur a été pareil. Mais comme Jésus-Christ, et avec la grâce de Jésus-Christ, il nous faut dire, non pas ma volonté, mais votre volonté. C'est dans la volonté de Dieu qu'on trouve la paix et la force. Et cet amour de Dieu par l'accomplissement de sa volonté a été jusqu'au don total. Au chapitre 10 de Saint Jean, mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite, bien sûr, mais je donne ma vie. Personne ne me prend par force cette vie, mais je la donne de moi-même. Et cet amour de Dieu va jusqu'à donner pour son Père sa propre vie, volontairement. Il le veut, parce que Dieu le veut. Mon Père m'aime parce que je donne ma vie. C'est un don volontaire, par amour, et non pas subi, mais qui est voulu, qui est aimé. Alors de même pour nous, quand Dieu nous demande quelque chose, il faut essayer de ne pas faire une triste figure, il faut essayer de donner volontiers, de bon cœur, Seigneur, vous me demandez ça, ben parce que c'est vous. D'accord. J'ai pas du tout envie, mais c'est vous, alors. Oui. Et de bon cœur, il faut le donner. C'est pas toujours facile, c'est vrai, mais peu à peu, il faut y parvenir. Ensuite, l'amour des hommes, et je terminerai par là, parce que... C'est dans Saint Jean, chapitre 15, bon, vous connaissez ce passage. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Bien sûr. Et Saint Paul traduit ça avec émotion et enthousiasme. Alors que nous étions ses ennemis, il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. J'étais son ennemi par le péché, eh bien il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Moi, oui, l'avorton, comme dit Saint Paul, le moindre des moindres. Mais il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et chacun de nous doit dire la même chose. Moi, un tel, eh bien, il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Moi, un tel qui est qu'à tel âge, telle origine, tel caractère, tel défaut, et il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Extraordinaire, c'est la réalité profonde, constante de l'amour de Jésus-Christ dans son humanité et dans sa divinité, bien sûr, pour nous. N'oubliez pas, nous étions ennemis de Dieu par le péché. Et Dieu nous a aimés au point de donner son Fils, mourant sur la croix, et ce Fils nous a aimés dans sa divinité, bien sûr, mais dans son humanité, au point de se livrer lui-même pour nous. Et ce qui résume le plus magnifiquement cet amour de Jésus-Christ pour nous, c'est l'hymne des laudes de la fête Dieu. Alors malheureusement, vous ne trouvez pas ça sur vos missels, mais j'avoue que c'est extraordinaire. Saint Thomas d'Aquin qui a écrit cela. Je vous le lis, et si vous voulez, je vous le dicte après, parce que tout est résumé en quatre lignes, enfin quatre strophes, quoi. En quatre lignes d'une strophe. Pardon. En sa naissance, il se donne comme compagnon, au repas sacré de la scène comme aliment, en sa mort comme prix de notre salut, régnant au ciel, il se donne en récompense. Tout est dit. En sa naissance, il se donne comme compagnon, il devient l'un de nous par l'incarnation. En sa naissance, il se donne comme compagnon, il devient l'un de nous, l'un de nos amis, notre frère. Jésus dit bien à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Nous sommes fils de Dieu avec le Fils. En sa naissance, il se donne comme compagnon. Au repas sacré de la scène, comme aliment, il est nourriture de nos âmes. Dieu le Fils fait homme, nourriture de nos âmes. Faut-il que nos âmes soient si grandes pour que Dieu seul puisse les nourrir? Au repas sacré comme aliment, en sa mort comme prix de notre salut, en sa mort comme prix de notre salut, Saint Paul n'oublie pas de nous le dire, n'oubliez pas que vous avez la valeur du prix du sang de Dieu. Nous avons été rachetés d'un prix infini, le sang de Dieu. Le sang de Dieu, le Fils et homme. En sa mort comme prix de notre salut, régnant au ciel, il se donne en récompense. Régnant au ciel, il se donne en récompense. Alors bien sûr, le texte latin est beaucoup plus concis, mieux dit, mais il faut expliquer un peu en français. Régnant au ciel, il se donne en récompense. Il suffit de méditer cela. C'est toute la vie de notre Seigneur du début à la fin et jusqu'au ciel, la gloire du ciel. Or la croix, la souffrance n'est qu'une étape. Le but, c'est le ciel, n'oubliez pas. Donc ça, c'est l'amour de Jésus pour les hommes, il y a aussi sa miséricorde envers les corps et les âmes. Oh, vous connaissez l'évangile, ses guérisons multiples, ses miracles, tout ça par miséricorde, le pardon des péchés. Notre Seigneur n'a pas de zèle amer et dur, il ne se met pas en colère contre les pécheurs, il n'invective pas, il ne critique pas, il ne dit pas du mal. Mais il veut sauver. c'est Isaïe au chapitre 42. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, il ne brisera pas le roseau froissé. Il a le souci des âmes, il veut sauver. Et donc, envers ceux qui lui ont fait du mal, il pardonne, il prie, il nous dit, priez pour vos ennemis, faites du bien à vos ennemis. Dans les événements récents où il y a quelques ennemis qui ont manifesté un petit peu leur méchanceté, il n'y a qu'une réponse, c'est prier pour eux, c'est tout. Et pardonner, pas d'autre, si nous voulons imiter Jésus-Christ. Mais aucune colère, aucune amertume, aucun sentiment mauvais à leur égard. Notre Seigneur cherche la brebis égarée. Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Et puis, ça va jusqu'à la délicatesse envers les siens, envers les apôtres. Une délicatesse de petites choses. Dans les courses apostoliques, les apôtres avec Jésus-Christ sont fatigués, sont pressés par la foule. Alors, il arrive un moment où leur nature humaine faiblit un peu. Et notre Seigneur, il y pense. Il leur dit, allez, venez vous reposer. Maintenant, ça suffit, il faut aller vous reposer. Allez, venez manger, vous reposer, puis reprendre des forces. Notre Seigneur pense à cela, il s'en préoccupe. Et puis, délicatesse extraordinaire, après la résurrection, donc, il se trouve que les apôtres ont encore fait une pêche pendant toute la nuit, ils n'ont rien pris. Notre Seigneur est sur le bord du rivage, il leur dit, jetez le filet là encore. Alors, les apôtres obéissent, puis c'est la pêche miraculeuse. Alors aussitôt, ils reconnaissent que c'est Jésus-Christ. Et ils vont sur le bord, et pendant qu'ils ramènent les filets avec les poissons, qu'ils ramènent les bateaux, notre Seigneur a préparé à manger. Poisson grillé et un peu de pain. Il leur a préparé une petite consolation dans la nourriture, après l'effort. Délicatesse extraordinaire. Quand on lit ça dans l'Évangile. Voilà, je m'arrête là. Bon, il faudrait regarder aussi la prière de Jésus-Christ, mais on ne peut pas tout faire. Donc, retenez surtout, je crois, c'est l'amour de Dieu pour son Père. C'est cette volonté, cette humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Vous voyez encore cette humilité de Jésus-Christ aux pieds des apôtres. Lorsqu'il leur lave les pieds, il dit bien, je suis le maître. Vous avez raison, je suis le maître. Et pourtant, je le fais, ça. Le travail de l'esclave, de laver les pieds. Toute sa vie, il nous montre cette humilité. Alors, prenons exemple et demandons pendant la retraite la grâce d'aimer la volonté de Dieu et de toujours l'accomplir. Mais de l'aimer, c'est en l'aimant que nous arriverons à l'accomplir. Et c'est comme ça que nous imiterons notre Seigneur Jésus-Christ.